La question des objets et des œuvres d'art spoliés au Congo, donc, pour commencer, il y a 3 ans, la Belgique avait promis de se doter d'une loi spécifique, une loi destinée à restituer ces objets volés, spoliés, on va dire globalement acquis abusivement au Congo pendant la période coloniale. Cette loi de restitution sera finalement votée 1 an plus tard, en 2022, et ça a donc ouvert la porte à des milliers de restitutions. Mais il doit y avoir des accords bilatéraux entre gouvernements. Entre 1500 et 2000 objets sont déjà éligibles à une restitution immédiate parce qu'ils proviennent d'actes déjà illégaux à l'époque coloniale, des pillages, des prises d'otages ou encore des profanations. L'Africa Museum à Tervuren a été désigné comme opérateur d'un vaste programme de recherche pour savoir quelle est la provenance des objets et des collections, mais il faudra des années, vous l'imaginez, et des moyens financiers et scientifiques importants aussi pour mener cette étude à bien, avec des chercheurs à la fois congolais et belges. Christian Mazuy et Françoise Barré se sont rendus à Tervuren. Ils ont rencontré plusieurs acteurs clés dans ce domaine pour comprendre où on en est dans ce processus de restitution.
La grande rotonde de l'Africa Museum. Cette rotonde imposante, construite en 1898, à la gloire de la mission civilisatrice de la Belgique au Congo. Grandiloquence, racialisme, matériaux riches, pour un musée pur produit de propagande. Depuis 2018 et sa rénovation, l'Africa Museum opère une mue profonde. Le travail de décolonisation est gigantesque, la tâche quotidienne mobilisatrice pour le nouveau directeur Bart Ouvry. On le retrouve dans les caves de cette rotonde.
Nous sommes dans les caves du musée et au-dessus de nous, vous avez la grande rotonde. C'est l'endroit symbolique où les rois, les chefs d'État étaient reçus. Et donc, les objets qui se trouvent ici, on les a descendus. Ils sont dans un dépôt en dessous de la rotonde. Donc, c'est hautement symbolique. Nous les présentons en tant que pièces qui sont dans un dépôt et donc que nous ne voulons plus mettre dans le musée. Pourtant, on veut continuer à les montrer. Mais nous voulons les montrer avec, je dirais, des sous-titres, avec de l'explication, dans un contexte. Beaucoup de ces objets ont été produits au cours du XXe siècle encore, quand on faisait encore de l'anthropologie physique. On voulait prendre les mesures des gens, on allait démontrer que nous sommes différents. Il y a des gens qui sont arriérés quelque part. Et donc ce message, il a été porté par le musée pendant très longtemps. C'est un héritage que nous devons assumer. Et donc, dans la grande rotonde, déjà, on essaye de l'expliquer, et ici aussi.
Il y a de l'écho. Chaque pas, chaque chuchotement résonne dans les caves, aux murs de briques. C'est dans cet espace que sont exposées les sculptures emblématiques et problématiques de l'exaltation de la colonisation belge au Congo. Des bustes historiques, témoins d'une époque, des militaires colonisateurs, ils sont aujourd'hui à moitié visible, déposé au fond de caisses de bois. La sculpture de l'homme léopard est-elle remise en contexte, une expérience muséologique pour ancrer l'Africa Museum dans les réflexions contemporaines?
Ce que nous montrons ici, c'est une fabrication historique. Et surtout, c'est une manière de montrer l'Afrique d'une manière très négative, l'homme africain violent. Et donc, nous voulons ne pas cacher ce manière de stéréotyper l'autre, de fabriquer une image négative de l'autre. Nous voulons le montrer, mais avec beaucoup de précautions, parce qu'on ne doit quand même pas, en tant que musée, continuer à faire passer ce message. Ce sont des monuments. Comment les montrer? Ici, on les montre en caisse. C'est un peu le hasard qui a fait ça, parce que nous avons déplacé le dépôt. Aujourd'hui, ils sont en caisse, et quelque part, c'est un message qui est très fort. Ça veut dire qu'ils ne sont plus sur un piédestal, ils sont dans une caisse. En même temps, on ne veut pas cacher non plus. Et on va parler de qui étaient ces gens, pourquoi est-ce qu'ils sont partis au Congo, quels ont été leurs actes. C'est une des missions de notre musée. On a été un acteur là-dedans et on veut montrer notre propre histoire, mais on veut aller beaucoup plus large et montrer cette histoire pour la Belgique et pas que pour la Belgique. Nous n'étions pas les seuls à avoir un rôle de pouvoir colonial.
On est quand même ici dans une maison qui a été un fleuron de propagande. Et donc, comment faites-vous aujourd'hui pour à la fois vous inscrire dans les pas de votre histoire, mais vous en détacher?
Il y a beaucoup d'objets dans un musée, mais aujourd'hui, de plus en plus, on nous demande de raconter des histoires. C'est ce que nous essayons de faire. Nous voulons montrer le passé, mais une des tâches du musée pour moi, c'est aussi de montrer l'Afrique d'aujourd'hui. Donc ne réduisons pas l'homme africain à son passé colonial, parce que c'est une histoire relativement courte par rapport à l'histoire longue. Donc ce n'est pas un rôle de propagande, mais c'est un rôle où nous assommons quand même, en tant qu'acteurs dans la société, un rôle pédagogique.
Les questions de restitution des objets ethnographiques aux pays africains sont au cœur des débats dans la société. Chez nous, la possibilité d'une restitution poursuit un chemin législatif dès 2021, car toutes les collections conservées à l'Africa Museum sont une propriété inaliénable de l'État belge. On ne peut pas les restituer. Une nouvelle loi doit permettre qu'elle passe du domaine public au domaine privé de l'État. Un changement de statut juridique essentiel, c'est tout l'enjeu pour déverrouiller en quelque sorte ces collections.
Nous avons ici à Tervuren, où nous sommes les gardiens d'une collection, une des plus importantes au monde, d'objets culturels. 120 000 objets culturels, on peut y ajouter 8 000 instruments de musique. C'est une collection très importante. On ne parle plus de notre collection, on parle d'une collection que nous hébergeons, parce qu'on sait qu'une partie de ces objets a été obtenue par la violence, par le vol, par de la manipulation. Et il y a aujourd'hui une loi, la loi de 2022, qui permet de restituer.
Une première étape historique est franchie le 17 février 2022. Le Premier ministre Alexander De Croo et le secrétaire d'État à la politique scientifique Thomas Dermin remettent officiellement un inventaire de 84 000 objets au Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde. Une étape supplémentaire dans la future restitution d'œuvres ou d'objets congolais par la Belgique.
Aujourd'hui, on fait de la recherche de provenance pour mieux savoir quels sont les objets qui répondent à des critères qui ont été clairement explicités dans la loi. Et il y aura une commission scientifique commune, belgo-congolaise, qui va étudier, donner des avis. Et donc certains des objets qui sont dans ce musée aujourd'hui vont devenir la propriété du Congo. C'est aux Congolais de décider comment gérer ces objets et on va surtout faire cette opération ensemble, de commun accord entre Congolais et Belges, plus tard aussi avec le Burundi, le Rwanda et pourquoi pas avec d'autres pays. Une chose qu'il faut savoir, il y a des gens qui me disent mais pourquoi vous faites ça, est-ce qu'il faut le faire? Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui, je ne connais pas un collègue d'un musée européen qui n'est pas impliqué d'une manière ou d'une autre dans une opération de restitution. C'est quelque chose qui devient inéluctable. C'est l'histoire qui est en marche et qui va dans ce sens.
Nous avons interrogé l'historien Didier Gondola, professeur à l'université Johns Hopkins aux États-Unis.
Dans le contexte d'un musée ethnographique comme celui-ci, qui a été créé en 1898, donc dans une période de grande violence vis-à-vis des populations non blanches, ces objets ont été amenés ici, par exemple, par des militaires. Donc lorsque les militaires ont fait ce qu'on appelle des promenades militaires, ils ont tué les populations et puis ils ont embarqué leur trésor, leur bien culturel, et ainsi de suite, leur patrimoine, en fait, qui les connectait vraiment à leur sol, à leur culture, à leurs ancêtres, à leur histoire. Nous avons par exemple aussi des missionnaires. Il y a un rapport de force qui est là. Des missionnaires qui se disent, ces objets, ce sont des objets païens, on doit les brûler, mais en sous-main, ils en apportent certains ici. Pour faire en fait ce qu'on appelle du fundraising, c'est-à-dire pour montrer ça aux gens et dire, voilà comment ces populations sont des populations païennes. Regardez les objets qu'ils ont créés, etc. Des faux dieux qu'ils sont en train d'adorer. Donc donnez-nous l'argent pour que nous continuions nos missions. Donc les missionnaires ont créé aussi des musées. Mais à la fin, ils se sont rendus compte que ces objets avaient une grande valeur marchande. Ils ont soit fait des dons à des musées, comme celui-ci, soit ils les ont vendus sur le marché de l'art.
Un comité d'historiens, d'experts belges et congolais va alors examiner les conditions exactes de leur acquisition. Un coup d'accélérateur pour ce que l'on appelle les recherches de provenance, un chantier titanesque.
Il y a un lien qui est fait entre provenance et restitution. Et puis il y a aussi le législateur qui s'est emparé de cette question, qui dit ces objets-là, c'est un patrimoine de l'État belge. Donc c'est des objets qui ne peuvent pas être cédés comme ça, selon la perspective des Belges, évidemment. Il y a une volonté réelle de la Belgique de financer la recherche de provenance parce que pour eux, la recherche de provenance est une précondition pour la restitution parce qu'on ne veut pas tout donner en réalité. Par exemple, les objets muets, les objets dont on ne peut absolument pas trouver la provenance, dont on dispose de très peu d'informations, eh bien, ces objets-là ne peuvent pas rentrer. Il y a aussi une autre catégorie d'objets, des objets qui ont été acquis de façon absolument légale, absolument légitime. Et ça, c'est une notion qu'on doit contester parce que dans un rapport de force coloniale, peut-il y avoir véritablement une transaction légale, une transaction légitime ?
Même s'il n'y a pas de violence, on est dans un contexte de domination et de rapport de force qui fait qu'il y a cet inconscient qui vous pousse à donner l'objet.
C'est-à-dire que la notion de violence, je crois qu'elle doit être élargie, elle doit être étendue. La violence, elle n'est pas seulement là, physique, avec une arme. Il y a une violence qui est là aussi dans le rapport, dans la présence même de ce blanc qui rentre dans le village pour collecter des objets.
Selon les derniers inventaires officiels, un millier d'objets, soit 1% environ de la collection, a été spolié au Congo à la période coloniale. La mission de recherche de provenance est claire, mais pas sans ambiguïté. Étudier en profondeur les conditions d'acquisition des collections, le parcours des objets, l'histoire de leur arrivée à l'Africa Museum.
On a pris un objet dans un contexte où l'objet n'est pas un objet artistique. C'est un objet rituel. C'est un objet qui est utilisé dans une pratique des populations. L'objet a un sens, l'objet a un pouvoir. Dans le contexte africain, les objets animent les gens, animent les peuples. Alors on les prend, on les met ici dans un musée où ça devient un objet artistique, ça devient une œuvre d'art. Et avec ça, il y a un accroissement de sa valeur marchande. Et jusqu'au point où, moi, quand je venais à Tervuren, dans le temps, en tant qu'étudiant, ça me semblait véritablement comme un cimetière des objets africains. Les objets étaient morts, ils avaient été totalement dépouillés de leur sens. Mais il y a un accroissement d'une autre valeur qui est la valeur marchande de l'Occident. Aimé Césaire l'a dit, l'Occident, voilà, ce sont les marchands, en fait. C'est tout est marchandisé, vendu, conservé. On crée des musées absolument incroyables pour ces objets. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ce paradoxe où l'objet africain est valorisé, on le trouve beau, merveilleux, mais les gens qui ont produit l'objet ont été dévalorisés, ont été déshumanisés, ont été même animalisés dans le contexte colonial belge. Donc il y a ce paradoxe. Vous continuez à être raciste vis-à-vis des gens, mais vous êtes en train de célébrer, de valoriser leurs objets. C'est vraiment à n'y rien comprendre.
Une sorte de nomenclature qui distinguerait alors les pièces acquises légalement, lors d'un échange commercial par exemple, et les pièces spoliées, arrachées, volées, car la loi de 2022 permet la restitution à la République démocratique du Congo des objets d'abord et avant tout mal acquis. L'État fédéral a octroyé un budget étalé sur 4 ans de 3 300 000 euros pour ce vaste projet scientifique de recherche de provenance.
Oui, je m'appelle Donatien Dibwe Diamwimbu. Je suis professeur à l'université de Lubumbashi.
Cet universitaire est ici pour poursuivre des recherches dans les archives. Il apporte une nouvelle méthodologie aussi à la recherche de provenance, l'étude de la tradition orale et populaire. Il nous emmène vers une vitrine où est exposé un collier de pouvoir.
Oui, en fait, vous voyez la photo là, où il est à côté de sa femme favorite, Mfouté, qui porte ce collier. Alors, comment ce collier se retrouve ici ? C'est ça le problème. C'est pourquoi nous disons que le discours que certaines personnes apportent ici lorsqu'ils amènent un objet, c'est un discours qu'il faut vérifier.
C'est un bijou de laiton doré, de pattes de verre et de fils de soie, majestueux. Une parure de pouvoir qui est entrée officiellement dans les collections historiques de l'Africa Museum en 1959. Mais il était là depuis 1949. Ces perles, ces reflets au pouvoir hypnotique, ne doivent pas nous faire oublier qu'il est bien autre chose qu'un joyau esthétique, qu'un beau bijou. Cet objet appartient à une communauté au Congo. Ce collier appartenait au chef Sangé, Kamanda Lukungu, à la veille des années 30.
On prétend que le chef Kamanda, quand il était en prison, il n'avait plus d'argent pour payer les différents frais, etc. Et il aurait alors vendu ce collier. C'est ça la version. Or, quand le chef Kamanda est décédé, le commissaire de district de Cabinda a dit que son compte en banque avait encore 5 000 francs. Donc c'est une contradiction. Donc c'est une fausseté. Il n'a pas vendu. Ensuite, en tant que chef coutumier, quelqu'un qui a donné un collier à son épouse, il ne peut pas reprendre ce collier pour le vendre. C'est indigne d'un chef coutumier. Indigne.
Le professeur Diboué fait parler les archives coloniales pour établir une contre-expertise. Selon le seul document conservé, ce bijou a été acheté en toute légalité par un mécanicien fin des années 30. Le chef Kamanda Lupungu lui-même incarcéré, après avoir été accusé de meurtre, l'a vendu parce qu'il avait besoin d'argent pour sa défense. Un collier arraché à une communauté, à une famille. On comprend que les archives coloniales renferment une certaine histoire. Elles sont inscrites dans les idéologies et les réalités d'un autre temps, celui du système colonial. En somme, le contenu de ces documents n'est jamais neutre. Tout un pan de l'histoire des objets est passé sous silence, occulté.
Ce que la tradition orale raconte, c'est qu'il aurait demandé l'indépendance pour le Busongye, donc son espace, et qu'il aurait adressé cette lettre de demande d'indépendance en Allemagne, auprès de Hitler, et que la lettre aurait été interceptée. Alors là, c'est peut-être ça la cause, et parce qu'on le considère comme précurseur de l'indépendance. Et alors maintenant, on attendait une occasion. Et voilà, l'occasion se présente et il est pendu. Dans sa famille, on ne veut même pas entendre parler de Kamanda assassin. Pour eux, c'est du mensonge.
Il veut donc dire que ce collier qui se trouve dans les collections ici, on fait bonne figure pour dire qu'il est arrivé tout à fait légalement dans les collections, mais vous démontrez que non.
Non. Maintenant, les collègues, historiens de l'art, etc., font leur travail de recherche dans les dépôts d'archives. Et nous, historiens, aussi comme eux, nous faisons ce travail, mais avec les communautés sources. Et nous mettons ensemble nos résultats et nous avons un compromis. Est-ce que, ici, la Belgique, qui est propriétaire de ce collier, est-ce qu'elle va céder devant ces arguments ?
C'est donc regarder d'un œil neuf les archives et l'histoire des collections de l'Africa Museum. Agnès Lacaille est chercheuse en provenance à l'Africa Museum.
L'idée, c'est de pouvoir porter un nouveau regard sur l'histoire des collections du musée, leur constitution, et évidemment de s'intéresser de plus près à l'origine de ces collections, à ce qu'on appelle aujourd'hui la provenance, c'est-à-dire à se pencher sur le contexte d'acquisition de ces pièces, d'essayer de retrouver la transaction initiale qui a fait que ces objets ont quitté à un moment donné le Congo pour se diriger vers le musée de Tervuren.
C'est une attention nouvelle, ça veut dire que pendant très longtemps, on ne s'est pas réellement préoccupé scientifiquement de cette recherche d'acquisition, de provenance.
La transaction initiale d'acquisition de l'objet n'était pas le focus principal des recherches, quand bien même les chercheurs, les anthropologues, les historiens essayaient de documenter un contexte global d'origine de l'objet. Ce n'était pas ça qui retenait l'intérêt des scientifiques, même s'il y avait déjà des données qui pouvaient émerger de leurs recherches. C'est vrai qu'on se rend compte qu'en termes de communication publique, ce ne sont pas des données qui ensuite sur lesquelles on mettait l'accent et sur lesquelles il y avait un grand focus, notamment en dehors du musée.
Par qui les collections sont-elles entrées dans le patrimoine de l'État belge ? Quels étaient les rôles des militaires, de l'administration coloniale, des agents commerciaux, des missionnaires ? Quelles informations sont disponibles sur les propriétaires initiaux ? Ce sont autant de nouvelles questions que se posent les chercheurs aujourd'hui avec une attention renouvelée. On retrouve Agnès Lacaille dans l'exposition « La fabrique des collections, regard sur l'histoire ». L'historienne de l'art en est la co-commissaire.
En fait, les archives, elles sont loin d'être neutres, ça certainement, elles sont loin d'être complètes. Par contre, si on les relit avec l'angle de la provenance tel qu'on se le pose aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à y découvrir, y compris pour des archives qui sont bien connues, qui avaient déjà été investiguées auparavant par un grand nombre de chercheurs. Les relire aujourd'hui avec vraiment ce regard provenance et d'être à la recherche de l'élément qui vienne documenter la transaction éventuelle de l'un ou l'autre objet, ça peut encore apporter énormément d'informations.
C'est fondateur pour le chercheur, la recherche de cette négociation, de cette transaction, du contexte, ça éclaire énormément.
Oui, cette transaction initiale qui a eu lieu au Congo, oui, elle est très importante pour le chercheur qui débute sa recherche de provenance. Elle est très importante, j'imagine, pour les politiques qui vont devoir trancher, réfléchir sur d'éventuels cas de restitution. Par contre, au fur et à mesure où on avance dans cette historique, où on déroule le fil à partir de cette provenance, on a tendance à voir émerger des trajectoires de personnes, des biographies, des histoires familiales qui, tout d'un coup, pour moi en tout cas, prennent le pas sur l'objet lui-même et cette fameuse transaction d'origine. Et c'est vraiment ces histoires familiales, le devenir de ces personnes qui tout d'un coup devient le plus important.
La loi qui permet la restitution est votée en juillet 2022. Le travail de recherche de provenance se poursuit. Celui-ci est de longue haleine. Trop long, trop énergivore pour certains, trop dilatoire pour d'autres. L'histoire, pourtant, ne fera pas de demi-tour. La restitution, comme l'approche nouvelle des musées ethnographiques, est en marche. Sarah Van Burden est historienne et professeure aux États-Unis.
Je pense que le musée ethnographique, comme il existe aujourd'hui, ne peut plus exister comme tel dans le futur. Ce type de musée a besoin d'une vraie décolonisation. Mais on est toujours en train de réfléchir et qui peut prendre des décisions là-dessus. C'est une question importante aussi. Alors c'est un processus qu'on est en train de découvrir, qu'on est en train de vivre, mais le musée comme tel, comme il existe aujourd'hui, probablement dans 10-20 ans, sera un autre musée.
Parce qu'on expose encore ici les objets comme avant.
Oui, mais ça, je pense que c'est déjà en train de changer ça. Et c'est un processus, mais ça va continuer. Et c'est vrai que c'est un processus lent et ça peut être très frustrant. Mais c'est quand même quelque chose qui a commencé et qui, je pense, qu'il ne va pas s'arrêter.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.